Tiens, Asma, alors on coche d'une grande croix votre rendez-vous Mancor ma vie avec Hicham Benabbas Tarji, gynécologue obstétricien à Casablanca. Il est en ligne avec nous. Bonjour, Hicham Benabbas Tarji.
Bonjour Sidi, merci pour votre invitation.
C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté. Avant de vous donner la parole, Asma, j'invite les auditeurs à poser leurs questions et à réagir sur l'application Lux Radio.
Alors, Hicham Benabbas Tarji, la fertilité de l'homme et de la femme connaît une diminution importante ces dernières années. Selon des chiffres récents, 13 à 15% des couples marocains souffrent effectivement d'infertilité. Comment interpréter ces chiffres?
Oui, justement, comme vous le dites, une personne sur six souffre, un couple sur six souffre d'infertilité, non pas juste au Maroc, mais dans tout le monde. Mais il faut bien revenir à qu'est-ce que c'est qu'une infertilité. Souvent, j'ai des cas où une femme qui me contacte après 3 mois, elle me dit après 3 mois de mariage, je ne suis toujours pas enceinte. Non, ce n'est pas après 3 mois qu'on peut tomber enceinte, il ne faut pas s'inquiéter. On parle d'infertilité après 1 an d'essai régulier pour tomber enceinte. C'est important. Donc, pourquoi? Parce que il faut laisser le temps au spermatozoïde pour rencontrer l'ovule. Il faut rappeler que la femme généralement ovule une fois par mois. Donc elle a une chance par mois d'ovuler, et en plus ce n'est pas forcément dès que vous ovulez que vous tombez enceinte. Le pourcentage d'environ de la chance ou le risque de tomber enceinte n'est environ que de 25% par mois de tomber enceinte. Cette chance varie selon l'âge, bien sûr. Une jeune fille de 18 ans, 20 ans est beaucoup plus fertile qu'une dame de 30 ans et bien sûr qu'une dame de 40 ans. Plus on monte en âge et plus ce taux de fertilité va diminuer. Mais donc c'est pour ça qu'il faut laisser le temps au temps et avoir aussi des rapports sexuels réguliers pour pouvoir dire qu'on est infertile au bout d'un an.
Donc il faudrait s'inquiéter à partir d'une année de rapports réguliers.
Oui, tout à fait. Une précision, une dame de 40 ans, ce délai d'une année, il faut aussi le réguler par rapport à l'âge, la dame. À 30 ans, je vais vous dire, oui, vous revenez dans un an. À 40 ans, je ne peux pas vous dire cela. Je dirais peut-être qu'il faudrait 3 mois, 6 mois. Oui, mais on sait déjà qu'à 40 ans, la fertilité a beaucoup plus baissé.
D'accord. Alors, Hicham Benabbas Tarji, les causes de l'infertilité sont nombreuses, même si on évoque dernièrement l'impact des changements climatiques et le changement des modes alimentaires aussi. En tout cas, quelles sont les causes de l'infertilité et comment agir justement sur ces causes?
Comme vous le dites, il y a plusieurs causes et nous, scientifiques, on essaie d'être méthodique, c'est-à-dire que pour pouvoir proposer un traitement, il faut d'abord savoir la cause. Alors les causes, première des choses, donc une cause maritale. Sachez qu'il faut explorer le mari, notamment le sperme du mari, parce que dans 30% des cas, la cause est masculine. Dans 30% des cas, elle est féminine. Dans 30% des cas, elle est liée aux deux, c'est-à-dire qu'il y a une cause masculine et chez la femme. Et à peine 10% des cas, il y a environ ce qu'on appelle une infertilité inexpliquée. C'est pas qu'il n'y a pas de cause, c'est que cette cause, on n'est pas arrivé à la trouver avec les examens complémentaires qu'on va demander.
Donc je comprends qu'il faudrait en parler, que ce n'est pas un tabou justement.
Bien sûr, c'est ça. Je veux dire, souvent, je reçois des dames qui ont déjà eu des stimulations ovariennes, enfin, qui prennent des inducteurs de l'ovulation, des médicaments, alors qu'on n'a même pas encore exploré le sperme du mari. Elle va aller prendre du citrate de clomiphène, c'est un produit, je ne veux pas citer de nom, qui est très couramment donné, même des fois par les vendeurs en pharmacie, ce qui est une erreur, alors qu'on n'a même pas exploré le sperme du mari. Et c'est souvent, je vous dis, dans 30% des cas, c'est l'une des causes. Une autre cause aussi, c'est l'absence de rapports sexuels réguliers. Quand vous avez un militaire ou une dame qui a un rapport par mois ou au moment de l'ovulation, c'est le meilleur moyen, je dirais pour moi, de ne pas tomber enceinte. Parce qu'un rapport par mois ou un rapport par semaine n'est pas suffisant pour fertiliser la femme. Donc il faut des rapports sexuels réguliers, 2 à 3 fois par semaine, et je dirais sans stress. Comme vous dites, parmi les causes, une des causes qui est en train de grandir, je dirais, c'est le stress. Des fois, j'ai vraiment envie de prescrire sur mon ordonnance voyage en Thaïlande. Pourquoi? Parce que le stress est un facteur. J'ai pas dit c'est le seul facteur, j'ai pas dit c'est le facteur prédominant.
Pas besoin d'aller aussi loin. Hein.
Non, je dirais, mais oui. Déstresser. Arrêter de penser à son ovulation. Ah non, il faut faire l'amour aujourd'hui parce que j'ovule aujourd'hui.
Le facteur psychologique est très important.
Voilà, exactement, c'est ça. Alors les causes, on peut voir donc la cause, je dirais, la cause masculine, absence de rapport ou bien sperme défaillant. Deuxième des causes, cause au niveau de l'utérus. Alors, soit au niveau du col utérin, c'est-à-dire l'entrée de l'utérus, la glaire peut être mauvaise. Il peut y avoir un problème au niveau de l'utérus, un fibrome ou un polype à l'intérieur qui va entraîner donc une difficulté de nidation. Ou bien encore, c'est un problème mécanique au niveau des trompes, parce que la trompe de Fallope, c'est elle qui communique entre l'ovaire et l'utérus, c'est elle qui va acheminer les spermatozoïdes et acheminer l'œuf éventuellement fécondé. Donc si la trompe est bouchée, si les trompes, on en a deux, si les trompes sont bouchées, eh ben, on ne pourra pas tomber enceinte. Si on a une seule trompe, oui, on peut tomber enceinte. Après, il peut y avoir des problèmes ovariens. Ces problèmes ovariens peuvent être liés juste à l'ovaire localement. On a ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques, qui est très fréquent, qui fait environ 10% des femmes.
Et nous aurons l'occasion d'ailleurs d'aborder dans une prochaine édition.
D'accord, mais je voulais juste dire que quand vous avez des OPK, des ovaires polykystiques, tachyos lombavé, vous ovulez mal, vous ovulez en retard, et donc ça, c'est un facteur d'infertilité. Après, il y a aussi les causes générales. Si vous avez, par exemple, un adénome à prolactine au niveau de la tête, c'est une petite tumeur qui produit du lait, eh ben, cette prolactine va vous bloquer votre ovulation. Si il y a d'autres causes générales, si vous êtes déprimé, la dépression est une cause. S'il y a une hypothyroïdie, il y a plein de causes générales qui peuvent aussi entraîner une infertilité. Donc, quand vous venez chez moi, je dois m'assurer d'abord qu'il y a une infertilité. Je vous dis au moins un an de rapport régulier. Puis, je vais essayer par un examen clinique, qui sont des examens assez faciles et donc je dirais de première attention, de voir est-ce qu'il n'y a pas de problème avant de vous demander un bilan à la recherche d'une éventuelle cause. Parce que pour vous traiter, j'ai besoin de connaître la cause.
Donc je comprends bien qu'il faut un check-up complet pour pouvoir effectivement vérifier la cause exacte et à ce moment-là agir sur cette cause précise. Alors Hicham Benabastagi, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à Casablanca. On discute ensemble de l'infertilité. La procréation médicalement assistée reste, nous dit-on, l'ultime solution en cas de diagnostic. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur la PMA d'un point de vue pratique, évidemment, et quand recourir à la PMA?
Alors la PMA, procréation médicalement assistée, ou AMP, assistance médicale à la procréation, en fait, ce sont toutes les techniques qui nous permettent de solutionner le problème qu'il y a. Alors, s'il y a un problème au niveau du sperme du mari qui est absent ou qui est très altéré, ça ne sert à rien de donner des médicaments ou quelque chose, ou d'autres choses. Dès le début, ça dépendra de la qualité du sperme, mais s'il est très mauvais, dès le début, il faut aller vers la fécondation in vitro, ce qu'on appelle l'ICSI, c'est-à-dire on va, le sperme tout seul n'arrive pas jusqu'à l'ovule. Eh bien, on va prendre les ovules et les rentrer dedans un spermatozoïde pour faire un bébé éprouvette et après le remettre dans le ventre de la maman. Mais on n'est pas toujours là. S'il y a une cause, par exemple, au niveau d'un polype ou d'un fibrome, on peut éventuellement, dans l'utérus, on peut éventuellement les enlever. S'il y a un problème d'OPK, d'ovaire polykystique, on peut stimuler l'ovulation. S'il y a un problème de trompe bouchée, on peut essayer de les réparer si elles ne sont pas très bouchées, s'il n'y a que quelques adhérences, on peut essayer de lever. Mais par contre, si elles sont totalement bouchées, il n'y a aussi que la FIV là comme solution. Donc la PMA a permis à beaucoup de femmes qui désiraient, à beaucoup de couples, je dirais, qui désiraient avoir des enfants, a permis de leur donner, de réaliser leurs rêves, même de leur donner des fois plusieurs enfants. Et donc c'est un outil très intéressant qui donne des résultats dans, je dirais, environ 50 à 60% des cas, pas toujours, même si c'est cher, mais donc on peut offrir des solutions à ces dames.
Justement, 25 000 Marocains ont eu recours justement à la FIV dernièrement. Le chiffre est quand même faible comparé à d'autres pays. Pourquoi? Parce que la PMA reste un processus donc, qui est long, onéreux. Il faut compter entre 40 et 60 000 dirhams, sachant que les résultats, vous venez de le dire, ne sont pas garantis. Pire, cette intervention n'est pas prise en charge par les organismes sociaux. Quelle alternative donc à la PMA quand il faut passer par la PMA?
Pas d'alternative. Alors, je veux dire, comme vous dites, comme vous soulevez le problème, on aimerait bien que la PMA soit remboursée. La PMA est un processus assez difficile. Il faut donner des médicaments pour stimuler l'ovaire et qui vont coûter entre 6 000 et 10 000 dirhams en fonction de votre réponse. Il faut endormir la dame, il faut donc un monitorage échographique, un monitorage biologique. Il y a des analyses pour surveiller est-ce que ces ovules grandissent ou pas. Il faut endormir la dame pour faire une ponction de ces ovocytes qui ont grandi. Donc il faut un bloc opératoire, il faut une technologie pour le faire, il faut un laboratoire qui va recueillir le sperme et le rentrer, le mettre en contact de l'ovule. Ça nécessite des techniques particulières, ça nécessite aussi des règles de sécurité, d'hygiène très très élevées, donc pour éviter pour que ça réussisse. Donc ça nécessite de l'argent. Et après, on va remettre. Donc tout ça, quand vous dites, ça coûte donc entre 30, je dirais entre 25 000 et 60 000, ça dépend des médecins, des cliniques. Mais ça nécessite beaucoup de choses. C'est pas juste un petit truc qu'on va faire. Et donc, quand le sperme est très altéré, quand la dame n'a presque plus d'ovule, on n'a pas de choix à part la PMA. Maintenant, la PMA n'est pas toujours la solution. Il y a, quand le sperme est un peu altéré, par exemple, on peut tenter des inséminations intra-utérines, c'est-à-dire avec le sperme du conjoint, on va juste, parce qu'il y a un problème au niveau du col, ou parce que la glaire n'est pas bonne, on va juste injecter un sperme préparé, l'élite des spermatozoïdes. On va peut-être les injecter juste dans l'utérus en les laissant se débrouiller, aller eux-mêmes monter dans l'utérus et la trompe pour aller féconder un ovule. Mais quand vous avez un sperme très altéré, quand vous avez des trompes qui sont bouchées, il n'y a pas d'alternative, malheureusement. Je dirais peut-être l'adoption. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire pression sur nos organismes de santé de telle manière à rembourser la PMA. Au moins quelques tentatives, mm-hmm. Ça, c'est une bonne chose. Mais je vous dis, la PMA n'est pas toujours la solution. Mm-hmm. Y a des choses qu'on peut avoir juste avec des stimulations ovariennes simples, avec des médicaments, et on peut avoir des résultats dans beaucoup de cas. On peut, je vous dis, avoir des résultats avec l'insémination intra-utérine. Je veux dire, l'essentiel de toutes ces techniques, c'est qu'elles ne donnent pas forcément de résultats la première fois. Et
faut
donc, pour avoir des enfants, il faut persévérer. Mm-hmm. C'est-à-dire que par exemple, avec la FIV ou la FIV ou l'ICSI, la FIV, c'est on met les spermatozoïdes autour de l'ovule et on les laisse se débrouiller de rentrer tout seul. L'ICSI, c'est l'injection d'un spermatozoïde dans l'ovule. Alors, dans ces techniques, on arrive à faire plusieurs bébés.
On était avec Hicham Benabbas Tarji, donc gynécologue obstétricien à Casablanca. Donc on discutait d'infertilité justement et de l'obligation, on va dire, d'être patient, on va dire, pour y arriver.
Des couples marocains. Des chiffres avancés.